c'est tout.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, c'est Philippe aujourd'hui. Valérie sera de retour le mois prochain. Erika, bonsoir à toi.
Bonsoir.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir tout le monde.
Dans cette émission, nous accueillerons Paul, le responsable du greffe à Angers. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par l'éditorial. Erika, tu vas nous parler de la laïcité.
En France, pays dit des droits de l'homme et de la laïcité, on pourrait penser que la liberté religieuse est particulièrement bien respectée. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État est un texte fondamental, unique en son genre au niveau mondial. Elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, tant que cela ne perturbe pas l'ordre public. Cela signifie que chacun est libre de pratiquer sa religion ou d'en manifester les signes visibles, tant que cela respecte la loi. À l'échelle internationale, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, est très claire. Son article 18 stipule que toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion en public et en privé.
Mais dès que l'on parle de l'islam, le débat se crispe.
En effet, il n'y a qu'à voir les récentes polémiques suscitées par l'interdiction du port du voile pour les athlètes françaises lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Mais ça ne s'arrête pas là.
La situation des femmes musulmanes en France, en particulier celles qui choisissent de porter un signe religieux visible comme le voile, est effectivement très complexe, bien plus que pour d'autres religions. Certaines femmes chrétiennes ou juives portent des couvre-chefs, mais ne font pas l'objet d'autant de discrimination. Elles sont confrontées à une stigmatisation quotidienne, non seulement dans la sphère publique, mais aussi dans les institutions. Ces femmes font face à un racisme ordinaire, souvent sous couvert de laïcité, et cela crée un climat de méfiance à leur égard, où leur appartenance religieuse est perçue comme incompatible avec les valeurs de la République.
Mais ces valeurs sont pourtant claires, liberté, égalité, fraternité et laïcité.
La laïcité est un principe très important, mais il est souvent mal interprété. Ce principe n'a jamais été conçu pour être une arme contre des pratiques religieuses individuelles, mais plutôt pour assurer une neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Aujourd'hui, la laïcité est parfois détournée pour justifier des restrictions sur les libertés religieuses, notamment celles des femmes musulmanes, qui portent le voile en les excluant de l'espace public, y compris des sorties scolaires par exemple, ou en leur refusant des emplois. Cela va à l'encontre de l'esprit même de la laïcité.
En ce qui concerne les droits fondamentaux, tu as évoqué en introduction la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est pourtant très claire là aussi.
Absolument. L'article 18 stipule que toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ce texte est un rappel fort que les femmes musulmanes, autant que les autres, ont le droit de vivre et de manifester leur foi sans être discriminées ou exclues.
Quelles actions mène Amnesty International pour faire en sorte que ces droits soient respectés ?
Outre ces actions de sensibilisation, ces plaidoyers auprès des décideurs, la défense des femmes discriminées, Amnesty a publié en juillet dernier un dossier passionnant, très complet, intitulé « Les atteintes aux droits humains des femmes et des filles musulmanes causées par l'interdiction du foulard dans le sport en France ».
Quelles mesures devraient donc être prises pour améliorer la situation des femmes musulmanes en France ?
Il est impératif que les principes fondamentaux de la laïcité et de la liberté de conscience soient réaffirmés dans leur véritable esprit. La laïcité ne doit pas être un outil d'exclusion, mais de protection de la diversité. Les femmes musulmanes doivent être protégées contre toute forme de discrimination, qu'elles soient voilées ou non. L'État doit intensifier la lutte contre l'islamophobie et promouvoir une éducation à la tolérance et au respect des différences. Enfin, il est crucial que les voix des femmes musulmanes soient entendues dans les débats publics et politiques qui les concernent. Elles doivent être des actrices à part entière de la société française.
Merci Erika. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Paul, le responsable du greffe à Angers. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre association ?
Alors bonsoir. L'association greffe, ça veut dire Groupement Éducation Sans Frontières.
C'est une association de solidarité internationale dont le siège est à Paris, qui a des délégations régionales, et nous, à Angers, nous avons une antenne qui se préoccupe beaucoup plus de l'accueil des migrants pour leur donner des cours de français, trois matinées par semaine.
D'accord. Et votre association existe depuis un certain temps. Comment est-ce qu'elle a évolué?
Alors, au départ, le GREF a été créé en 1989, mais dans la région des Pays de la Loire, dans les années 2000, on a créé des cours de français à Nantes d'abord, et depuis 2009, à Angers, dans le quartier Montplaisir.
D'accord. Et vous avez des projets, des actions à venir?
On a toujours des projets. Bon, déjà, il faut accompagner toutes ces personnes qui viennent nombreuses nous demander leur accompagnement.
Vous avez combien de personnes inscrites au cours?
Alors, cette année, au moment où je parle, on est à plus de 200 personnes inscrites.
D'accord. Et combien de nationalités?
44 nationalités, et essentiellement des personnes de la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, essentiellement. J'allais dire afghane également, et puis géorgienne. C'est les principales nationalités.
D'accord. Et comment s'organisent les cours de français pratiquement?
Alors, nous avons, quand nous accueillons des personnes, on essaye de comprendre un petit peu leur niveau de connaissance de la langue française. Et en fonction de ça, on les répartit dans une dizaine de groupes. Alors, on a les grands débutants, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui viennent d'arriver en France, qui parlent pas bien notre langue, qui ont peut-être jamais été scolarisés dans leur pays, les groupes intermédiaires, et puis des personnes qui ont déjà un niveau un peu plus avancé. Mmh. On essaie de pas mélanger des personnes qui ont fait des universités dans leur pays avec des personnes qui n'ont jamais été à l'école dans leur pays.
Oui, tout à fait. Et vous coopérez avec d'autres associations?
Alors, on coopère effectivement avec des partenaires. Alors, on a d'abord les partenaires qui nous orientent les personnes. Ce sont les associations qui accueillent les migrants sur Angers. Alors, on peut citer France Horizon, France Terre d'Asile, l'Abri de la Providence, qui ont des CADA et qui cherchent à chaque fois des solutions pour...
CADA veut dire Centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Voilà. Une des difficultés que ces personnes rencontrent, c'est de trouver des cours de français. Il y a une grande pénurie sur Angers. Il y a vraiment un manque de cours sur Angers.
Ouais. Mmh. Et vous prenez en charge essentiellement des majeurs dans le cas du GREF ou également des mineurs?
Alors, on a bien sûr en majorité des majeurs, mais lorsque la permanence d'accueil des mineurs non accompagnés nous fait appel, on n'hésite pas à les intégrer, car nous avons un groupe de jeunes de 18-25 ans. Et ces jeunes de 18-25 ans sont accompagnés également par la mission locale angevine qui les accompagne vers la formation et parfois l'emploi.
Et est-ce que vous vous contentez, c'est déjà bien sûr une belle mission, mais est-ce que vous vous contentez de dispenser des cours de français?
Ah ben non. Alors, d'abord, on dit pas des cours de français. D'accord. On dit des ateliers d'apprentissage au français, de langue d'intégration. Parce que ce que nous faisons d'abord, c'est la conversation. Mm-hmm. Et parfois, on arrive jusqu'à... peut-être lire des mots clés que l'on trouve dans la vie quotidienne, parce que n'oublions pas que le but, c'est que ces personnes-là se trouvent le plus facilement autonomes dans leur vie quotidienne et aussi découvrent les aspects de culture et citoyenneté. Et pour cela, eh bien, nous avons des activités pour découvrir le patrimoine angevin, les musées, la mairie par exemple.
Oui, des visites citoyennes, c'est ça.
Fameuses visites citoyennes. Mmh. Voilà, donc on essaye de... Ce que je dis souvent... On va pas faire de ces gens-là des champions en orthographe et en grammaire. C'est pas le but.
Oui, bien sûr.
Et où peut-on vous contacter?
Alors, on peut nous contacter à la Maison pour tous de Montplaisir, qui pourra vous retransmettre nos coordonnées. Mais souvent, les personnes commencent à nous connaître maintenant. Mais actuellement, pour vous dire, j'ai dit tout à l'heure qu'on a 200 inscriptions. Ouais. On a une vingtaine de personnes en liste d'attente.
D'accord. Et vous avez suffisamment de bénévoles?
Des bénévoles. Alors, on est une cinquantaine. C'est bien par rapport à d'autres associations, on me dit souvent, mais on en aurait deux ou trois de plus et ce serait pas mal aussi. Les bénévoles, on est à chaque fois, parce qu'on est trois matinées par semaine et à chaque matinée, les bénévoles sont des binômes.
Et quel est le créneau horaire pour ces cours?
Lundi, mardi, jeudi matin, de 9h30 à 11h. Et les bénévoles donc sont en binôme. Et la difficulté, c'est que comme nous sommes des bénévoles, on peut être absent, et c'est là qu'on a besoin de remplacement. Enfin, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui voudraient se joindre à nous, ce serait avec plaisir.
Est-ce qu'il faut être absolument professeur de français pour
surtout
être bénévole?
Surtout pas. D'ailleurs, je ne le suis pas moi-même. Non, il faut surtout avoir un sentiment d'animateur, d'animation. On va pas faire, comme je disais, des champions en orthographe, en grammaire. Et la majorité des personnes sont issues des retraités de l'enseignement ou de la formation, mais de plus en plus, on a des personnes qui viennent d'autres univers. De la santé, par exemple, domaine de la santé, même de l'artisanat, d'entreprise.
Et je crois que ce qui est aussi important, c'est que le greffe est maintenant considéré comme un partenaire important, non seulement au sein du quartier de Montplaisir, mais également au sein de la métropole.
Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a le soutien vraiment, et c'est très important de le dire, du pôle territorial de Montplaisir, et également d'Angers, qui nous soutient financièrement par l'intermédiaire du CCAS, et qui répond à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Par exemple, quand il manque de tables et de chaises, ils sont là pour nous aider, ne serait-ce que ça. Et l'année dernière, par exemple, nous avons, quand vous parliez de projet, on va peut-être relancer un projet dans le cadre d'un contrat de ville unique.
D'accord. Et vous êtes situé seulement à la MPT ou vous êtes dans d'autres endroits?
Alors la MPT ne dispose pas assez de salles, mais elle en dispose suffisamment. Donc nous avons à peu près une dizaine de salles dans le quartier, entre la MPT, la résidence Corbeil d'Argent, le centre Schumann et même la paroisse qui nous loue des salles. Donc vous voyez, on est obligé de rayonner dans le quartier, mais ça reste dans le quartier Montplaisir.
Et est-ce que vous avez un projet de soirée comme vous le faites annuellement?
Alors, sauf cette année. Chaque année, effectivement, ça nous permet de recueillir des fonds pour acquérir du matériel supplémentaire. Donc cette année, le 7 février, nous accueillerons une troupe de théâtre.
D'accord.
Dans la salle de spectacle de la Maison pour tous de Montplaisir.
D'accord.
Je crois que c'est Bertolt Brecht, je sais plus, Arthur Oui.
Oui, c'est ça, la résistible ascension d'Arthur Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je vois que vous avez des activités multiples, et c'est vrai que il faut inviter nos auditeurs à vous joindre. Alors, quelle est l'adresse ou le contact que vous pouvez nous donner?
Alors, le contact, greffe atelier français, sans cédille, @gmail.com. Ouais.
Greffe atelier français, d'accord.
Alors le téléphone du greffe auquel on peut nous joindre, c'est le 07 68 66 25 23. 07 68 66 25 23.
Ben écoutez, merci Paul d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la suite.
Ben un grand merci à vous de m'avoir accueilli et avoir accueilli tous les migrants et les bénévoles du greffe.
Ben, c'était un plaisir de notre part aussi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve après une pause musicale.
Sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc. 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 Il ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuir par la mort. Regarde, triste voleur, l'absence est dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre avec tous tes remords, creuser jusqu'en enfer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle. Jeté au ciel, tu commences à comprendre que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre.
Retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter La fiancée de l'eau de la rue Quétanou, une chanson de 2000, inspirée d'une histoire écrite par l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun. C'est bientôt l'heure des actualités, mais avant, découvrons la chronique de l'antenne jeune angevine d'Amnesty par Louise et Ilias.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique présentée par Amnesty International dans laquelle nous abordons un sujet essentiel et malheureusement de plus en plus préoccupant, le ciblage des travailleurs humanitaires dans les zones de conflit au Moyen-Orient, plus précisément à Gaza et au Liban. Au Liban, depuis l'explosion de Beyrouth en 2020, le pays s'enfonce dans une crise économique et politique sans précédent. Cette situation a aggravé les tensions entre les différentes factions, notamment avec la présence armée du Hezbollah dans certaines régions. Les travailleurs humanitaires, essentiels pour venir en aide aux réfugiés syriens et aux Libanais en détresse, sont de plus en plus exposés à des agressions. En 2022, l'ONU a rapporté une augmentation de 20% des attaques visant ces humanitaires, avec plus de 30 incidents graves signalés dans l'année. Ces actes incluent des agressions physiques, des menaces et même des attaques directes sur des convois humanitaires. Ces événements perturbent considérablement la distribution de l'aide dans un pays où la population souffre d'un accès de plus en plus limité aux ressources de base. À Gaza, la situation est encore plus dramatique. Ce territoire palestinien, soumis à un blocus par Israël depuis 2007, est l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Les besoins humanitaires y sont immenses, allant de l'assistance médicale aux besoins alimentaires pour les 2,3 millions de personnes qui y vivent. Toutefois, les travailleurs humanitaires opèrent dans un environnement marqué par une violence quasi permanente. Les infrastructures médicales, notamment les hôpitaux gérés par Médecins Sans Frontières, ont été frappées à plusieurs reprises, réduisant l'accès aux soins pour des milliers de Gazaouis. Les forces armées israéliennes, tout comme certains groupes armés palestiniens, ne respectent pas toujours la distinction entre civils, humanitaires et combattants. Nous avons souligné en 2023 que ce non-respect des conventions internationales met directement en danger les travailleurs humanitaires. Pour beaucoup d'acteurs du conflit, ces organisations d'aide internationale sont perçues comme affiliées à l'un ou l'autre camp. Le Hamas, par exemple, considère parfois les ONG comme des outils d'influence étrangère, tandis qu'Israël soupçonne certaines organisations de collaborer avec des groupes militants. La récente escalade de la violence à Gaza en octobre 2023 a encore aggravé la situation. Selon l'ONU, plus de 40% des infrastructures humanitaires ont été endommagées lors des frappes aériennes, compliquant encore davantage le travail des ONG sur place. Face à cette réalité, la communauté internationale doit redoubler d'efforts pour garantir la sécurité de ses travailleurs humanitaires. Le droit international humanitaire, qui stipule la protection des civils et des humanitaires dans les conflits armés, est systématiquement violé dans ces zones. Cependant, il est essentiel de rappeler que sans ces hommes et ces femmes sur le terrain, des millions de personnes seraient privées d'aide.
C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Avec près de 79 000 détenus au 1er septembre, la surpopulation carcérale continue d'augmenter en France. Les prisons françaises ont une densité carcérale globale à 127,3%. Plus de 3 600 détenus sont donc contraints de dormir sur un matelas posé au sol. Dans les maisons d'arrêt où sont incarcérés les présumés innocents en attente de jugement, et ceux condamnés à de courtes peines, elles dépassent les 153%. Elles dépassent les 200% dans 17 établissements. La France figure parmi les plus mauvais élèves en Europe en termes de surpopulation carcérale. Des mesures ont pourtant été prises pour tenter de remédier à ce problème, telles que l'interdiction des peines de prison de moins d'un mois, l'aménagement des peines ou encore le développement de travaux d'intérêt général. Mais celle-ci s'avère clairement insuffisante.
En France encore, le 15 octobre, Amnesty et 14 partenaires de la coalition dirigée par la Quadrature du Net ont déposé plainte auprès du Conseil d'État, demandant que la Caisse nationale d'allocations familiales cesse d'utiliser un système algorithmique de notation des risques. Cet algorithme a en effet pour but de détecter des fraudeurs potentiels aux prestations sociales qui recevraient des trop-perçus. Au total, 32 millions de personnes en France ont leurs données personnelles sensibles traitées périodiquement et une note de risque leur est attribuée. Il est maintenant démontré que cet algorithme traite avec suspicion les personnes marginalisées, en situation de handicap, vivant dans la pauvreté ou les familles monoparentales composées majoritairement de femmes.
Au Mozambique, depuis les résultats contestés du premier tour aux élections présidentielles, la police a plusieurs fois tiré à balles réelles sur des partisans du candidat de l'opposition et a procédé à leur arrestation. Elle a en particulier arrêté David Calisto Bandera, musicien et fervent partisan du parti d'opposition Podemos. La police l'a accusé d'incitation à la violence en raison de ses chansons. On ne peut que rappeler que, quel que soit le vainqueur de l'élection, la police mozambicaine doit respecter le droit de la population à se réunir pacifiquement.
On a appris que les autorités iraniennes prévoyaient d'exécuter le 21 octobre Mohammad Reza Azizi. Ce jeune homme était mineur au moment des faits. De plus, ses droits à un procès équitable avaient été bafoués, notamment parce qu'il avait été interrogé en l'absence d'un avocat et parce que le tribunal avait retenu ses aveux forcés à titre de preuve pour le déclarer coupable et le condamner à mort. L'exécution prévue de Mohammad Reza Azizi étale au grand jour la cruauté des autorités iraniennes. Leur mépris flagrant et répété envers le droit à la vie est une atteinte odieuse aux droits des mineurs.
Début octobre, le président zambien a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur de la liberté de la presse et de la promotion de l'accès à l'information. Et pourtant, quelques jours après, le 16 octobre, la police zambienne a arrêté le journaliste Thomas Alan Sgambo et l'a placé en garde à vue. Il n'a pas été officiellement inculpé, mais son arrestation fait suite à la publication d'un article perçu comme critique à l'égard des représentants du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que ce journaliste est mis à mal. Les autorités zambiennes soumettent depuis quelques années Thomas à des mesures de harcèlement et d'intimidation. Amnesty demande qu'elle le libère et qu'elle cesse de le prendre pour cible simplement parce qu'il fait son travail.
En Pologne, le projet de suspendre le droit de solliciter l'asile est clairement illégal. Il s'agit de la dernière en date des initiatives du gouvernement polonais visant à sabrer les droits fondamentaux des personnes réfugiées ou migrantes arrivant à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Cette proposition coïncide avec une période où la Pologne s'apprête à faire l'objet d'un examen devant la Cour européenne des droits de l'homme quant à la situation d'un groupe de personnes afghanes en quête d'asile qui ont été abandonnées à la frontière avec le Bélarus en 2021. Les autorités polonaises les auraient alors empêchées d'accéder à la procédure d'asile et renvoyées sommairement de l'autre côté de la frontière.
Le jeudi 3 octobre, c'est une des ultimes pages de l'histoire coloniale britannique qui s'est tournée avec la cession par le Royaume-Uni des îles Chagos, un archipel isolé du nord de l'océan Indien à la République de Maurice. Ce nouveau développement peut être vu comme une victoire pour l'île qui réclame la restitution de l'archipel depuis plus de 50 ans. Les négociations s'étaient accélérées en 2022 sous les pressions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale. Bonne nouvelle aussi pour la diaspora chagossienne qui devait finalement être autorisée à retourner sur la terre de ses ancêtres. La victoire n'est cependant pas totale, puisqu'en échange de la rétrocession de ces îles, Maurice a dû s'engager auprès de Londres à garantir la présence sur le principal atoll des Chagos d'une base militaire louée par les Britanniques aux États-Unis.
Et c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique tant attendue de Céline.
Bonsoir Valérie. Depuis quelques semaines, déjà, nous alertons sur le nombre important de familles qui se retrouvent sans solution d'hébergement à Angers. Ils sont en moyenne entre 25 et 27 personnes, avec des enfants, beaucoup trop d'enfants. Et ce soir, c'est des enfants dont je voudrais te parler. Celles et ceux pour qui ces temps de premières vacances de l'année scolaire sera synonyme d'errance. Celles et ceux pour qui l'école est un refuge alors que la vie quotidienne n'est faite que d'obstacles et d'interrogations. Où dormir? Où se reposer? Où pouvoir se poser un moment? Elle s'appelle Sephora et je l'ai rencontrée il y a 3 semaines, la veille de son premier jour d'école en France. Elle a 9 ans, elle est congolaise et a longtemps préparé son sac de classe qu'un joker lui avait donné. Elle a rangé plusieurs fois les crayons et les cahiers, fière de pouvoir en avoir pour le lendemain. Quant à ses vacances, sans doute, les passera-t-elle entre l'accueil de jour et le tramway, avec son sac de classe remisé à la bagagerie pour les personnes à la rue. Elle s'appelle Rim. Elle a 12 ans. Elle est érythréenne et aime les maths et l'histoire. Elle travaille comme elle peut, où elle peut, les devoirs du soir. Un arrêt de bus en guise de bureau, un Algeco du 115, un lit pour une nuit chez un joker, où elle préfère ne pas manger pour profiter d'un endroit confortable pour réviser son évaluation du lendemain. Pour elle, les vacances seront sans doute un peu plus faciles, car elle a 3 sœurs. Au moins, elles seront ensemble et discuteront. Les heures d'attente seront moins longues. Et la liste pourrait être longue, Valérie, de ces enfants qui, dans nos écoles, vivent les mêmes choses et qui sont attentifs en classe comme ils peuvent, résilients incroyablement, joyeux et drôles dès qu'ils le peuvent avec gourmandise et qui nous donnent des claques. Des sacrées claques de leçons de vie.
Nous sommes toujours dans Droit Devant, sur Radio G 101.5 FM, et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
À partir du 21 octobre jusqu'au 16 novembre, expo photo à la médiathèque de Muret-Rigné sur le thème de Gaza, l'enfance blessée. Cette expo marquera le début de plusieurs temps forts organisés par l'association France-Palestine Solidarité 49. Du cinéma, des conférences, mais également des soirées poésie et musique. Allez vite découvrir le programme sur le site ou la page Facebook de la FPS.
Et n'oubliez pas le rendez-vous chaque samedi à 15h, place du ralliement, pour exiger le cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Le jeudi 7 novembre, au 400 coups, Cinédoc avec le documentaire français Le Repli. Le cinéaste et un militant des droits humains interroge des années 80 à aujourd'hui le phénomène du repli identitaire en France, la montée du racisme et les restrictions des libertés. Il délivre la parole qu'on ne veut pas entendre, en décortiquant le discours médiatique et politique, confrontant l'actualité aux archives. Cette soirée est organisée en collaboration avec Attaque 49 et la Ligue des droits de l'homme 49.
Le samedi 9 novembre, au Carnet, l'association Asile et Partage organise une soirée théâtrale. La compagnie Bizarre présentera une comédie, In Vino Very Good, 2 représentations au programme, l'une à 15h et l'autre à 20h. Tarif de base 10 euros, 5 euros pour les 10-18 ans et tarif solidaire. Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Paul pour sa venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également vous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À bientôt sur les ondes de Radio G. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.